here comes.
First down!
Here it comes. First down, says Red Cashin.
De retour à la zone payante pour notre match qui commence. Premier essai avec Jean Carrier. Jean, les statistiques du Super Bowl, c'est souvent ce qui nous intéresse après le match, de voir tout ce qui s'est des fois mangé, des fois ce qui a été écouté à la télé. Mais toi, parle-nous un peu des statistiques que tu as lues sur le match qui pourraient nous surprendre.
Sur le terrain, écoute, c'est plusieurs statistiques. Une qui m'a vraiment surprise, les gars, c'est celle-là. Tom Brady a fini avec son plus haut rating de carrière, 125.8, le plus élevé de l'histoire du Super Bowl, mais de sa carrière. Donc, à chaque fois qu'il est allé au Super Bowl, c'est ce match-là qui a terminé avec son plus haut rating de carrière, 125.8. C'est quand même surprenant parce qu'il n'a pas été si fantastique que ça. Il a fait ce qu'il avait à faire, mais il a été quand même très précis. 3 passes de toucher, pas d'interception. Donc, Tom s'est réveillé avec un autre MVP, son 5e en 10 tentatives. Ensuite, 43% des passes que Tom Brady a faites étaient en play action. Ça, c'est énorme. C'est à peu près 1 sur 2. Et les 3 passes de toucher sont arrivées sur des feintes de jeu au sol et des passes. Donc, le play action et l'installation de la course par les Bucs a été majeur, primordial dans cette rencontre-là. Autre statistique, Patrick Mahomes avait trouvé la zone début dans les 50... a vu son attaque compter au moins un toucher à tous ses départs dans la NFL. 53 départs, 53 fois les Chiefs ont marqué au moins un toucher offensif.
Incroyable.
Numéro 54, ça a été un petit peu plus difficile. Limité à quelques placements par la part des Bucs. Qui avait vu venir ça, honnêtement? Ça, c'est phénoménal. Prochaine statistique, Steph en a parlé. Patrick Mahomes a couru littéralement pour sa vie, les gars. Là. Il a couru 497 verges dans la rencontre en raison de la pression abusive des Bucs sur lui.
Moi, donc, personnellement, là, c'est la stat qui m'a le plus renversé depuis longtemps. Ça. Pense-y 2 minutes, 497 verges. Ça n'a juste pas d'allure.
C'est à peu près 5 terrains de football.
Ça veut dire que quand c'était pas Barrett, c'était Pierre-Paul. Puis quand c'était pas Pierre-Paul, c'était Sue. Puis Devin White. Puis écoute, ils ont toutes eu leur mot à dire. Là, puis non seulement à pourchasser Mahomes, mais je trouve à bien le contenir, parce que Mahomes, si tu le fais courir vers les lignes de côté, il va être à son meilleur. Si tu le fais courir par en arrière, c'est là que c'est dangereux là, pour lui.
Exact.
Donc, ils ont vraiment, vraiment bien réussi à le contenir, parce que c'est beau de le faire courir pour sa vie, mais quand tu le fais courir du mauvais bord, ben là, c'est 3 fois mieux.
Absolument. Prochaine statistique. D'ailleurs, Patrick Mahomes a été le carrière qui a subi le plus de pression de l'histoire de tous les Super Bowls. Donc, chapeau à la défensive des Bucs. Kansas City a utilisé, ça aussi, ça m'a un peu jeté à terre, a utilisé 92% du temps. Donc, ils ont lancé 52 fois, 48 fois, ils ont utilisé une protection avec seulement 5 joueurs de ligne à l'attaque. Donc, un 5-man protection. C'est ce que ça veut dire, c'est que tu laissais ta ligne à l'attaque face à la ligne défensive sans aide. Donc, tu n'amènes pas un ailier rapproché, tu n'amènes pas de porteur de ballon additionnel pour aider. C'était ça.
Il leur manquait un genre d'Anthony Auclair.
Exact. Mais en tout cas, ça n'a pas été efficace. Il n'y a pas eu d'ajustement. Puis, je comprends aussi un peu Andy Reid. Tu sais, Andy Reid, les Chiefs ont quand même 15 victoires, 2 défaites dans la saison. Puis, ils ont joué de cette façon-là depuis 2 ans, puis ils perdent à peu près jamais, ils sont dans tous les matchs. Fait qu'il s'est peut-être dit, pourquoi tout changer? Il aurait peut-être dû mieux évaluer un petit peu ce qu'il y avait sous la main. Par contre, moi, je pense qu'il a manqué d'ajustement de la part des Chiefs dans ce match-là, mais je peux comprendre aussi sa façon de penser. Du côté des Bucs, une équipe qui aime blitzer en général, ils ont blitzé seulement 9,6% du temps. C'est le taux le plus bas d'une défensive de M. Bowles dans les 5 dernières saisons. Et dans les défensives, donc, il a utilisé ce qu'on appelle...
Il s'est aperçu vite qu'à 4, ça marchait.
Exactement. On fait une pression à 4. D'ailleurs, je t'avais dit que s'il y avait du succès avec une pression à 4, il garderait une pression à 4. C'est ce qu'il a fait.
C'est ce que j'avais prévu aussi.
Durant toute la rencontre. Ouais. L'autre point avec Bowles, c'est que moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est... Il y a...
Parce que Todd Bowles, là, on l'oublie, mais il a quand même été entraîneur-chef.
Entraîneur-chef avec les Jets.
C'est pas un nouveau. Ils sont très bien équipés en matière d'entraîneur.
Je pense que les deux équipes ont des excellents entraîneurs, mais je pense qu'on peut dire sans se tromper que les Bucs ont eu le meilleur sur les Chiefs au niveau du coaching. C'est même pas proche. Là. Les trois fois où ce que Bowles a le blitzé le moins souvent dans sa vie, c'est contre les attaques d'Andy Reid. Et c'est pour ça que tantôt j'ai dit qu'Andy Reid devait se douter un peu du plan de match des Bucs, puis il n'y a pas eu vraiment d'ajustement du côté des Chiefs. Donc c'est une autre statistique. Patrick Mahomes a fini 10-22, 50 verges et 2 interceptions dans les passes qui sont à l'extérieur des numéros sur le terrain. Dans la semaine 12, quand les deux équipes s'étaient affrontées, il était 18-22, 308 verges, 3 touchés.
Merci à Tyreek Hill.
Merci. Ouais. C'est là aussi qu'on voit le génie d'un peu du plan de match défensif des Bucs. Ils ont dit, on va tout ce qui est proche des lignes de côté, il faut vraiment enlever ça. On va laisser un peu plus le centre du terrain. On va voir ce qui va arriver. On va laisser nos secondaires qui sont très rapides aussi couvrir du terrain. Puis écoute, ça a été magique tout simplement. Puis on a enlevé Tyreek Hill en doublant systématiquement et on a emprunté un peu la recette que Bill Belichick a utilisée face aux Chiefs.
Bon, ben merci Jean. C'est des statistiques de médiocrité un peu. Hein? C'est comme si le Super Bowl nous avait pas donné des chiffres incroyables en matière offensive, mais bon, c'était une surprise.
C'est des statistiques qui expliquent, je pense, très bien la rencontre.
Ouais.
Le fait qu'ils ont utilisé 2 safeties très profondément à peu près tout le match, tout simplement.
OK, on y va avec notre deuxième essai. Steph, au milieu de la nuit, tu as parlé à un gars de la Beauce qui était heureux, Anthony Auclair. Parle-nous un peu de la discussion que tu as eue avec lui, puis raconte-nous un peu sa journée dans la NFL, puis qu'est-ce qui l'attend, là, lui, finit son contrat cette année.
Ouais, je vous dirais que pour commencer sur la discussion, les gars, ça a été, comme on dit, bref mais intense. Écoute, moi, j'avais tous mes textes à livrer, là, un petit peu passé minuit, j'avais terminé, puis j'espérais un appel d'Auclair. J'étais passé par les relationnistes des Buccaneers. J'avais pas de retour. À un moment donné, je me suis dit, je vais le texter directement. Donc, j'envoie un texto. Je me dis, il me rappellera probablement pas. Il doit être occupé. Il doit avoir quelques consommations à la main. en tout cas, c'est ce que je présumais. Là. Je sais pas là, pour vous ce que vous auriez fait, là, mais je me suis mis à sa place un petit peu.
Assurément.
Fait que, donc, c'est ça. Je me dis, je vais attendre, disons, jusqu'à 1h30 environ. Puis après ça, ça va être dodo. Le lit m'appelle. Puis vers 1h10, Anthony m'appelle, ben là, je m'en veux de pas avoir enregistré ça pour vous faire écouter dans le show, les gars, mais tu sais, c'est arrivé sur le fly à 1h10. Tout le monde dormait dans la maison, mais là, moi, fallait que je crie pour qu'il me comprenne, fallait qu'il crie pour que je le comprenne. C'était le party, là, je peux pas vous décrire à quel point il y avait du bruit. On essayait de se comprendre. La conversation a duré 2 minutes quelques, mais tu sais, fini par me glisser. On est champion du monde, mon Steph! Puis il criait, il était complètement dans une autre planète. T'sais, c'était beau à voir. Il était content, il avait son frère Adam. On le sait qu'il a joué demi-défensif avec le Rouge et Or aussi. Ils avaient gagné une Coupe Vanier ensemble. Là, ils se retrouvent ensemble à Tampa parce que c'est un contexte particulier. Les gars, on le sait, avec la COVID, c'est pas toute la famille qui a pu faire le voyage. Le père d'Anthony, là, qui a des problèmes de santé quand même, qui l'empêchait d'aller là-bas. Sa mère est enseignante. C'était pas évident non plus de s'absenter là, pour une longue période quand on inclut la période de quarantaine au retour. Donc, il s'est retrouvé avec son frère et un ami d'enfance à festoyer après le match. C'était de toute beauté. C'est un gars qui est très heureux, tu sais, Anthony, il y en a des mauvaises langues qui vont dire, il a même pas joué. Ouais, il a pas joué, mais il a été de l'alignement régulier toute l'année. Il a joué 8 matchs cette saison. Il est de tous les entraînements. Il joue son rôle à sa manière. C'est un gars qui était très, très fier de ce qu'il vient d'accomplir. Là, écoute, un Québécois qui gagne le Super Bowl pour une deuxième année de suite après Laurent Duvernay-Tardif l'an passé.
Et des Québécois qui ont fait leur football universitaire au Québec.
Aussi. Oui, exact. Tu sais, c'est ça. C'est le premier Rouge et Or, d'ailleurs, qui gagne le Super Bowl. Donc, tout le monde est content pour lui. Lui, il était très heureux. Il jubilait vraiment. Là. Donc, ça a été une courte conversation, mais il disait, écoute, en gros, on a attaqué les Chiefs avec un gros, gros plan de match. Tout le monde a fait son travail. Puis, pour ce qui est de la suite des choses, pour lui, on le sait, Anthony, c'est la fin de son contrat. Il avait son contrat de base de recrue, mais il a prolongé son association avec les Buccaneers l'hiver passé d'une autre saison. Puis maintenant, il devient agent libre. Là, écoute, à la lumière des dernières semaines, il n'a pas été en uniforme pour la durée des séries. Il y a lieu de croire que peut-être son temps à Tampa est fini. On ne le sait pas. Là, c'est dur de se prononcer avec certitude pour l'instant. Mais quand même, écoute, peut-être que l'équipe pourrait passer à autre chose. Mais je parlais à son agent, Sacha Gavamy, la semaine avant le Super Bowl. Lui, ce qu'il me disait, écoute, vous allez me dire les gars qui prêchent pour sa paroisse, puis je le comprends, là. Mais un ailier rapproché spécialisé au bloc comme Anthony Auclair avec un gabarit de quoi 6 pieds 5, 260 livres.
Ah, c'est comme un gros Auclair, bonhomme.
Ça court pas les rues, là. T'sais, c'est pas comme si tu te revires demain matin et t'en trouves un autre. Puis il a fait ses preuves, Anthony Auclair. Il a joué 40 matchs dans la NFL. Il a été longtemps louangé par les Buccaneers comme le meilleur bloqueur de l'équipe à sa position. C'est un gars qui va se trouver du travail, là, selon toute logique. Il y a des équipes qui recherchent ça, là, des ailiers rapprochés qui font le sale boulot comme lui, il est capable de le faire. C'est peut-être jamais le gars qui va pogner 40-50 passes là, comme certains pourraient l'espérer. C'est correct, là, lui, il veut sa chance pour pogner des ballons. Là. Comme tout le monde, tu veux réaliser des jeux spectaculaires. Mais si son rôle, c'est d'être bloqueur puis de le faire bien, au mieux de ses capacités, il peut durer plusieurs saisons comme ça dans la NFL. Maintenant, où il va aboutir? Est-ce que Tampa va décider de le ramener? Peut-être. Est-ce que d'autres équipes vont lui faire de l'œil? J'en suis convaincu. C'est pas la fin d'Anthony Auclair, là, à mes yeux, en tout cas dans la NFL. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'on va le voir rebondir, là, que ce soit à Tampa ou ailleurs.
Écoute, il y a une bague, il va avoir sa journée de trophée.
Écoute, c'est seulement le deuxième Québécois de l'histoire là, qui a une bague du Super Bowl. C'est vraiment pas... il y en a pas beaucoup qui peuvent se vanter. C'est la fierté de Notre-Dame-des-Pins. Le village, honnêtement, il devait être en liesse après la victoire des Bucks.
La seule chose qui est de valeur, Jean, par rapport à ça, imagines-tu le party qu'il y aurait eu en Beauce?
Ah, ça aurait été épique, honnêtement. C'est, je trouve ça plate un petit peu.
C'est une année vraiment bizarre, pareil. Là. C'est de valeur tout ce qui se passe pour ça. Là. Puis pour bien d'autres raisons, évidemment, plus importantes que ça. Là. Mais pour ce qui est du football comme tel, c'est spécial, pareil, qu'il se retrouve au Super Bowl. Pas la moitié de sa famille qui est là. Le village, comme tu dis, c'était les bons termes. Le village qui aurait été en liesse, là, ben, tu sais, c'est tranquille. On a mis une pancarte.
On ferme la télé à 11h. Puis...
Tu sais, tout le monde va se coucher couvre-feu, là.
Ben, au moins, ils se sont couchés avec le sourire. C'est au moins ça.
Puis juste une distinction, parce que il y a des gens, moi, c'est arrivé que je me suis fait poser la question par email ou Twitter ou etc. Est-ce qu'il est sur l'équipe de réserve, Anthony? Non, il n'est pas sur l'équipe de réserve. Il est sur l'alignement régulier de 53 joueurs. C'est juste que jour de match, tu prends les 53 joueurs de ton alignement régulier, puis il y en a 7 que tu ne mets pas en uniforme. Donc, il y en a 46 qui sont habillés le jour de match. C'est les règles de la NFL. C'est pas une règle des Buccaneers comme telle. Puis, Anthony Auclair, dans les dernières semaines, il a été dans les joueurs qui ont été appelés inactifs lors des jours de match en série. Mais comme je le disais, il y a la question aussi d'une blessure. Il s'est blessé à la jambe en début de saison. Puis son entraîneur des ailiers rapprochés lors des séances médias cette semaine, ça, j'ai hâte de le revérifier avec Anthony dans une conversation qui va durer plus que 2 minutes, qui est pas dans un party, là. Est-ce qu'il était encore en train de se remettre de cette blessure-là? Parce que son entraîneur a laissé entendre que c'était une blessure qui s'étire, qui est dure à guérir, puis qui l'a pas nécessairement aidé. Donc ça, c'est à vérifier avec lui. Je sais qu'il va donner un appel conférence aujourd'hui, un peu après l'enregistrement de notre show. Où il va certainement donner des éclaircissements par rapport à ça, c'est une question là que je vais essayer.
Ouais, c'est le genre de bruit que tu veux pas qu'il se répande quand tu tombes joueur autonome non plus là.
Non, c'est ça, tu sais, c'est sûr que tu veux montrer que tu es en santé, mais en même temps, il y a du temps là pour se remettre en masse là pour attaquer une réhabilitation là vraiment plus solide que ce
que à Tampa Bay, on dit que c'est l'équipe avec le plus de profondeur aussi au poste de d'ailier, c'est pas pour rien là, tu sais.
Que la venue de Gronk aussi lui a fait très mal, tu sais. Gronk aussi il est capable, non seulement il est capable, c'est un excellent bloqueur. Donc de cette façon-là, c'est sûr que ça y a enlevé du temps de jeu, c'est évident. Donc, moi, je suis un peu comme Stéphane. Je suis pas mal certain qu'Anthony va se trouver du boulot. Sa carrière n'est pas terminée dans la NFL. C'est un gars qui est très utile. Est-ce que c'est une vedette? Ben non, c'est sûr que non. Mais c'est un joueur qui est très utile pour une équipe de la NFL. Je suis convaincu qu'il lui reste quelques saisons. Du moins, j'en suis pas mal persuadé.
Puis, personnellement,
je suis content aussi parce que c'est vraiment un produit. Tu sais, je veux pas à être méprisant là, envers Laurent Duvernay-Tardy, c'est exceptionnel, mais le LDT, il a pas joué beaucoup dans le football québécois. T'sais, il a joué au collégial, puis il a joué universitaire, il a commencé tard. Dans le cas d'Anthony, c'est vraiment un produit du football québécois. Il a joué à Notre-Dame-de-la-Trinité au primaire, après ça, au secondaire avec les Dragons de la Beauce à Saint-Georges. Ensuite, collégial à Lennoxville, ensuite Université Laval. C'est vraiment, il a fait tous les niveaux. Du côté d'Anthony, puis on se doit d'être fiers de ça, tout simplement.
J'allais dire, juste avant de terminer, écoute, c'est peut-être hasardeux, mais c'est pas grave, juste pour le fun, puisqu'on parle de lui, puis qu'on sait pas quand est-ce qu'on va se reparler, les gars. C'est un gars que je verrais bien, puis ça vient pas de personne, là, c'est juste une impression personnelle. Les Steelers ont dit beaucoup qu'ils allaient se recentrer sur le jeu au sol, qu'ils allaient retrouver leur bonne vieille identité, qu'ils sont un peu trop égarés de leur personnalité dernièrement. Ils vont avoir besoin de gars comme Anthony Auclair, là, s'ils veulent vraiment s'enligner dans cette direction-là, si c'est sincère leur espèce de volonté de faire ça. Faudrait pas s'étonner qu'un gars comme Anthony Auclair puisse les intéresser. Donc, je le dis comme ça, situation à surveiller. Il peut aussi bien revenir à Tampa, là, on le sait pas. Mais quand même, ça pourrait devenir un scénario intéressant.
On lui souhaite. En tout cas, vraiment un bon gars en plus. Là, il a toutes les raisons d'être fier. OK, on y va avec un troisième essai un peu tourné vers la prochaine saison, les gars. Le way too early prédiction pour le Super Bowl. Je ne vous demande pas de prédire le Super Bowl, évidemment, de l'an prochain, mais je veux juste regarder avec vous les équipes qu'on voit comme les meilleures. Là. Les preneurs au livre voient les Chiefs et les Packers encore comme favoris l'an prochain pour rafler les grands honneurs. On voit que les Bucks n'ont pas réussi à les convaincre et les Ravens aussi, qui sont toujours proches de la tête. Est-ce qu'il y a des surprises? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision de nos preneurs au livre de Vegas?
Ben moi, j'étais un peu surpris que les Bucks soient pas plus près du sommet. T'sais, ils viennent de remporter les grands honneurs. Ils ont une défensive qui, à part Shaq Barrett, s'il re-signe, très intimidante à nouveau. Puis écoute, quand ton homme, c'est Tom Brady qui monte, aucun signe de ralentissement, ben je vois pas pourquoi les Bucks seraient pas dans la conversation là, l'an prochain. Les Chiefs, pour moi, ils sont là. Les Bills, les Rams, puis moi, je pense qu'il y a des équipes qui va falloir attendre un petit peu le dénouement au poste de carrière, mais je pense que les Colts puis les Niners, s'ils se trouvent une option intéressante au poste de carrière, ils vont être de retour dans la conversation également, là.
Ouais, les Buccaneers, la seule question, en fait, c'est leurs agents libres. Tu sais, ça se pourrait qu'ils perdent Chris Godwin. Bon, il y a Gronk qui est agent libre, mais on sait qu'il va revenir, ça c'est pratiquement sûr. Tu sais, tu parlais de Shaq Barrett qui est agent libre, il y a Lavonte David aussi, il y a Ndamukong Suh. Tu sais, il y a quelques contrats quand même à régler, mais ils ont l'espace. On pense que c'est une équipe qui est prêt à gorge avec toutes les vedettes, là. Mais ils ont quand même là au-dessus de 28 millions disponibles, les Buccaneers, sous le cap projeté de 180 millions. Donc,
c'est quand même énorme.
Qui va pouvoir un peu là, manier les dollars. Puis il y a des joueurs là-dedans qui vont se dire, écoute, le plafond salarial baisse l'an prochain. J'aurais peut-être pas le contrat que j'aurais droit à n'importe quelle autre année dans un contexte normal où la NFL monte sans cesse son plafond salarial. Il y en a peut-être là-dedans qui vont se dire, écoute, tant qu'à pas avoir le contrat que j'espérais, aussi bien rester à Tampa au sein d'une équipe championne. Fait que ça, ça peut jouer en leur faveur. Donc, oui, ils doivent être considérés là, parmi les équipes de tête. Les Chiefs, ben c'est pas surprenant. Faudra voir s'il y a un effet fatigue là, quand ça fait 2 années de suite que ton parcours t'amène jusqu'au Super Bowl. Est-ce que l'année d'après, il peut avoir un certain signe d'essoufflement? Ça va être à surveiller. Les Packers, je suis pas surpris qu'ils soient dans les équipes de tête. Moi, je suis d'accord avec Jean. San Francisco, c'est une équipe qu'on va avoir tendance à oublier. S'ils règlent leur questionnement au poste de corps arrière, ils reviennent avec une défensive redoutable, des partants de qualité qui étaient blessés cette année qui vont être de retour, une équipe qui pourrait vraiment causer des surprises. Ils jouent dans une division forte avec les Rams, les Seahawks et les Cardinals, donc
c'est très fort comme division là.
C'est hallucinant, c'est toujours difficile de sortir du lot, mais honnêtement, tout est possible.
OK, puis j'aimerais vous entendre sur l'équipe de Washington qui est qui est dans le fond des prévisions, dans le fond du classement des prévisions, derrière les Giants, derrière les Eagles, derrière les Cowboys, alors que c'est eux qui viennent de remporter la division. Est-ce que vous trouvez que les preneurs au livre sont un peu naïfs par rapport à l'équipe que Ron Rivera pourrait construire l'an prochain?
Ben eux aussi, tout dépend encore de la position de carrière. C'est il y a rien de fait.
Mais même sans une stabilité comme corps arrière cette année, ils ont réussi à faire une saison pas pire entre guillemets.
Oui, parce que la position de carrière ailleurs dans la division a été horrible. Mais ça sera pas nécessairement le cas l'an prochain. Je m'attends à ce que Dak revienne avec les Cowboys. Il va y avoir assurément plus d'adversité dans cette division-là. Je peux pas croire qu'ils vont rester aussi mauvais dans la NFC East aussi longtemps. Je pense que ça va être un peu mieux. Ce ne sera pas exceptionnel, mais il va y avoir plus d'adversité. Ils ont une défensive élite, ça on le sait. Elle est très jeune, d'ailleurs, cette défensive-là. Donc, elle va revenir. Maintenant, il faut qu'ils règlent leurs problèmes à la position de carrière. C'est la position la plus importante du terrain, les gars, là, ça n'a pas changé. Là.
OK, puis les cinq.
À part les fronts, après, c'est la position la plus importante. C'est en premier carrière, après ça, ta ligne offensive.
Puis tu vois, les 5 pires équipes selon Vegas pour l'an prochain, on parle des Jets, des Jaguars, des Lions, des Broncos et des Bengals. Il y a des équipes là-dedans que la question du corps arrière est réglée.
Moi, je ne mettrais pas les Broncos là-dedans, personnellement.
Non, moi non plus.
Je dis pas qu'ils vont gagner le Super Bowl, là, loin de là, mais dans les pires équipes, écoute, ils ont d'excellents receveurs de passe. Tu as Courtland Sutton qui va revenir. Il y a une défensive qui tient son bout. Un bon jeu au sol avec deux très bons porteurs de ballon. Une bonne ligne offensive. Tout ce qui manque encore là, c'est le corps arrière. Est-ce que Drew Lock va être l'homme de la question? Est-ce qu'on va lui laisser plus de temps? Où est-ce qu'on va aller chercher un vétéran là, pour essayer d'accélérer le processus? Ça reste à voir, mais pour moi, c'est pas une des pires équipes de la Ligue.
Là. À part les Broncos, par contre, je suis quand même d'accord avec la liste qui est là.
Ouais.
Puis quand tu regardes la liste, c'est toutes des équipes où que la position de ligne en attaque est problématique. Quand je dis que c'est une position qui est extrêmement importante dans la NFL, ben, on le voit dans ce genre de compilation d'équipes horribles.
OK, ben on va laisser toutes ces équipes s'améliorer avec les joueurs autonomes.
Il y a un petit point, Jean-Nic,
que ouais,
je voulais dire sur le Super Bowl qu'on n'a peut-être pas parlé, mais c'est Antonio Brown. Antonio Brown, il est maintenant champion du Super Bowl. Il a pris son trou. Il a accepté le rôle qu'on lui a donné. Il a jamais... cette année, on n'a pas entendu parler. Zéro, là. Tu sais, il a été A1++ pour les Bucks. Puis, honnêtement, faut lever notre chapeau. Puis, honnêtement, je lève mon chapeau également à Tom Brady parce que j'ai l'impression que ça serait peut-être pas arrivé avec n'importe quelle carrière. Mais c'est un peu la rédemption d'Antonio Brown qu'on a vu avec les Bucks. Ça passait un peu sous silence.
Ouais, mais ce qu'elle mérite, là, c'est pas comme
ça,
si...
Ça, c'est pas à moi de décider de ça.
Non, je sais. Mais
ça, c'est une autre affaire. Mais sur le terrain... honnêtement, il a toujours travaillé très, très fort. C'est jamais été son
éthique. Oui, mais est-ce qu'il avait sa place à être sur le terrain? T'sais, il y a ça aussi. Là,
ça, je comprends très bien ton point, mais c'est quand même une belle histoire, selon moi.
OK, ben écoute, on s'en parlera l'an prochain parce que je sais pas, lui, il a encore quelques mois à passer à être sage, là, ce qu'il va réussir.
Ouais, c'est peut-être même là son plus gros défi. C'est là, la saison morte.
Surtout que là, il est champion, peut-être que dans sa personnalité, c'est pas la modestie qu'il
a. Mais il a l'air beaucoup plus calme qu'avant. Puis Steph, tu peux me corriger, parce que t'as quand même vu son point de presse, j'imagine.
Ouais, ben c'est le seul point, moi, qui m'a un peu vraiment chicoté dans son cas. C'est qu'il a joué un peu à la victime dans son point de presse. Là.
Okay.
J'ai vaincu de l'adversité, puis j'ai eu un parcours parsemé d'obstacles, puis les gens ne croient pas en moi, puis les gens me dénigrent, puis j'ai combattu le mépris et la haine. Ouais. Il y a quand même des blessures là-dedans qui ont été auto-imposées, disons-le comme ça. Là. Il s'est auto-mutilé pas mal, Antonio Brown. Là. Il a été capable de faire le travail par lui-même. Donc, j'ai pas aimé ce ton-là. C'est vrai qu'il a fait profil bas. Il a pas fait de vagues, ça, honnêtement. On va lui donner, là. Mais c'est le ton, moi, que j'ai pas aimé, là, où tout le monde est contre moi. Puis, écoute, Antonio Brown... Il s'est quand même sorti des Steelers, il s'est sorti des Raiders. Il a été spectaculairement dur à suivre, Antonio Brown, dans les dernières années, disons-le comme ça.
Il peut remercier son grand frère Tom Brady de l'avoir... Franchement, là, il n'y a personne de la NFL qui aurait pu le parrainer autant. Là.
Quand on parle de l'influence de Brady là, sur une équipe, non seulement il a amené les Bucks à un autre niveau par son éthique de travail contagieuse et son leadership, mais regarde les gars qui ont inscrit des touchés dans ce match-là. Gronk serait pas à la Tampa sans Brady.
Non.
Antonio Brown, même chose. Puis l'autre qui a fait un touché, Leonard Fournette, c'est Brady qui a poussé Bruce Arians à dire « Écoute, ce gars-là, les Jaguars viennent de le libérer. On devrait prendre une chance. » Arians a dit « Ok, d'accord, Tom. » C'est les quatre gars qui ont inscrit des touchés. C'est les quatre gars que... les trois gars, c'est-à-dire que Tom Brady a réussi à amener en ville. Pas sûr que si c'est Jameis Winston qui est là, il y a autant d'influence pour amener ces joueurs-là à bord.
D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi c'était pas été Leonard Fournette sur le 4 et les buts au lieu d'Aaron Jones. Mais écoute, ils ont gagné. Fait que félicitations aux Bucks.
Après la pause, les gars, on continue notre match au quatrième essai, puis on va parler un peu des honneurs individuels qui ont été remis cette semaine dans la NFL. Pas de surprise, mais peut-être une. On en parle après la pause.